Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Michel de Guy.
Il est écrivain, essayiste, philosophe. Pour cette troisième étape d'une semaine entièrement imaginée autour du mot « terminé », nous discuterons avec lui de la fin, possible ou non, du poème. D'abord, commençons.
Bon Dieu, que j'ai envie d'écrire un petit poème. Tiens, on voit là justement un qui passe. Petit, 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 viens ici que je t'enfile sur le fil du collier de mes autres poèmes.
Surprise, ce matin, l'automne appliquait sur chacun des immeubles que d'autres étaient prêts à escalader de joie hier soir une couche régulière de matière de soleil. Surprise, ça faisait exactement comme d'habitude, la même équation, la même fonction exponentielle. Je prends X, un être au réveil, à qui j'applique le soleil, selon une évolution absolument indéterminée, et toujours j'obtiens cette courbe assez joyeuse, assez biscornue, assez vivante. Le soleil ne s'applique plus de la même façon que ce matin sur la grande baie vitrée du studio, mais il n'est pas impossible qu'une sorte d'empreinte de cette première lumière, absolument pas chiffrable, nous soit restée. Il est 16h passé de 1 minute, nous étions chanceux, vous écoutez France Culture, et c'est pas la peine de crier. L'image polaroïde du jour est un nouvel herbier. Sur le plateau du milieu, vers 16h20, troisième étape de cette semaine imaginée autour du verbe « terminer ». Aujourd'hui, on regarde, on écoute, avec Michel de Guy, la fin du poème, façon ou non de le terminer. Vers 16h50, c'est un autre poème qui est dit par Éric Genovès de la Comédie Française. Ce sont quelques vers de Rainer Maria Rilke qui sont traduits par Arthur Adamoff. Ensuite, il sera 17h et Hervé Gardette, tout un poème, annoncera le 5 à 7. Et c'est décidément au programme, puisque ce sont aussi des poèmes que choisit de nous lire la comédienne Joséphine Demeaux, des poèmes de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier. On écoute Joséphine Demeaux.
Le point de non-retour. C'était hier, plage noire de la Caspienne. Sur des racines blanchies rejetées par la mer, sur de menus éclats de bambou, nous faisions cuire un tout petit poisson. Sa chair rose prenait une couleur de fumée. Douce pluie d'automne, cœur au chaud sous la laine, au nord, un fabuleux champignon d'orage montait sur la Crimée et s'étendait jusqu'à la Chine. Ce midi-là, la vie était si égarante et bonne que tu lui as dit, ou plutôt murmuré, « Va-t'en me perdre où tu voudras. » Les vagues ont répondu « Tu n'en reviendras pas. » Fermeture du marché. Un peu de couleur et d'élan, de beauté et de mystère, vos airs battus, vos dos ronds et vos histoires à la con, j'en ai plus rien à faire. Dit la femme en brisant son verre, puis elle sortit son mouchoir et pleura. D'ordinaire, elle ne parle pas, mais c'est l'idée qui l'a frappée comme ça, devant son quart de bière, que la même vie, avec les mêmes, pourrait être comme de la soie, comme une musique continuelle, comme si la vie, mon Dieu. Déjà tous les yeux du café la regardent, les cartes levées des joueurs retournent vers la table, et chacun a sa propre mort, déjà elle n'est plus bien certaine. Sur nos écuelles sales, sur nos têtes rasées et sur nos drogués d'assassins, s'étend le ciel immuablement bleu. Parfois, du coin de l'œil, on l'aperçoit, puis on l'oublie. Novembre. Les grenades ouvertes qui saignent, sous une mince et pure couche de neige, le bleu des mosquées sous la neige, les camions rouillés sous la neige, les pintades blanches, plus blanches encore, les longs murs roux, les voies perdues, cheminent à tâtons sous la neige. Toute la ville, jusqu'à l'énorme citadelle, s'envole dans le ciel moucheté. Trois notes de clarinette. Le menuisier arménien transporte son instrument dans une jolie boîte en poirier. Navets bouillis dans leur sang et gâteaux parfumés au citron, casquettes et gourdins, cheval de fiacre, un œillet de papier sur l'oreille, fenêtres noires, carreaux gelés où s'inscrivaient les astres, chemin boueux qui menait vers le ciel. Tabriz.
Joséphine Demeaux, ce sont quelques poèmes qui sont tirés d'un livret qui s'appelle Le Dehors, signé Nicolas Bouvier, qu'on connaît surtout pour L'Usage du Monde, qu'on connaît un tout petit peu moins pour sa poésie. Vous, c'est davantage sa poésie qui vous touche ?
En fait, moi, Nicolas Bouvier, ça fait des années qu'il faut que je lise L'Usage du Monde, et je ne l'ai toujours pas lu. Et en fait, j'ai parcouru les poèmes, et ça m'a vraiment... maintenant, je vais lire L'Usage du Monde, je crois, parce que je trouve que ces poèmes, ils sont très bouleversants dans leur simplicité, et dans leur... Donc, c'est un écrivain du voyage, et j'ai l'impression qu'avec rien du tout... Vraiment des tout petits mots, vraiment ce premier poème là avec le petit poisson qui est cuit avec sa chair rose, c'est tellement énorme ce qu'on voit avec des tout petits mots comme ça qui sont très désuets, qui sont vraiment d'une simplicité extrême, un peu, il y a quelque chose de très démuni, même ce petit poisson, on a l'impression qu'on va avoir très très faim après, en le mangeant, on est avec eux comme ça. Et j'ai trouvé ça bouleversant parce que c'est vraiment un des... Moi, la poésie me touche vraiment pour ça, en fait, plus pour... ça la rend concrète, je trouve. Ça...
L'usage de ces mots-là la rend concrète ?
En fait, ce qui la rend concrète, c'est de parler de vraies choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit vraiment cet homme assis quelque part, qui regarde autour de lui, qui vit quelque chose, et qui le retransmet dans des termes vraiment extrêmement poétiques, très ciselés, comme ça, comme un tout petit diamant. Et ça, c'est pas du tout planant. Alors j'aime aussi la poésie qui emmène vers le haut, mais là ça emmène pas vers le haut, ça emmène complètement ailleurs en fait. Ça nous envoie dans un autre espace, dans un autre temps et voilà. Et je suis très très fascinée par ces gens qui sont capables de laisser complètement, encore une fois, la vie telle qu'on la connaît pour aller observer les choses très très loin et d'une manière très très différente comme ça. Et qui en même temps réussit avec le moins de mots possible comme ça à aller parler à quelqu'un comme moi qui n'ai jamais été sur la mer Caspienne, et quelque chose qui est très touchant. C'est comme une main tendue, en fait, qui est très délicate. Voilà, je trouve ça très, très, très délicat.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un parallèle possible à faire avec, dans cet usage de petites choses démunies, ou de petites choses presque pauvres, ou de petites choses qui vont presque nous laisser sur notre faim, et le jeu du comédien ? Est-ce qu'on peut jouer comme ça ? Est-ce qu'on peut jouer en se disant « je vais n'avoir pour outil que des petites choses » ?
Bah oui, de toute façon, on a toujours pour outil, mis à part les textes, après, on a notre outil à nous qui...
Et
qui est l'être humain est quand même une petite chose, quoi. Enfin bon, après, ça dépend, mais... moi, en tout cas, j'ai une petite voix, enfin voilà. Oui, c'est nos petites vies face à des textes qui nous dépassent complètement et qui sont... Donc oui, on part de toutes petites choses et en même temps, c'est comme si on allait se coller à quelque chose qui, je sais pas, c'est comme un coquillage qui va se coller à un paquebot ou je sais pas quoi. Et non, c'est pas un bon exemple parce que en fait, je pense qu'avec ces petites choses, quand même, on apporte aussi quelque chose vraiment quoi. Donc le coquillage qui est emporté par le paquebot, bon, il n'apporte pas grand-chose sur le chemin, quoi.
Donc, il faudrait trouver une métaphore qui induise l'idée d'un échange entre le petit être du comédien et le texte qui le dépasse.
Oui, parce qu'il y a une sorte de magie, quand même. Parce que, oui, on est des petites choses, mais quand même, à l'intérieur de ces toutes petites choses, voilà, il y a quelque chose de... Il y a l'humanité qui, de toute façon, n'est pas petite. Donc voilà, c'est le mystère, un peu, de ça.
Quelle musique on met après Nicolas Bouvier ?
El tiempo el implacable, qui est une chanson de Soledad Bravo.
El tiempo el implacable, el que pasó. Siempre una huella triste nos dejó. Qué violento cimiento nos forjó. Llevaremos sus marcas imborrables. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. La vida que es tan corta al parecer cuando se han hecho cosas sin querer. En este breve ciclo en que
se da porque se sienta. Y al hacer un recuento ya nos vamos. Y la vida se fue sin darnos cuenta. Cada paso anterior deja una huella que lejos de borrarse se incorpora a tu saco tan lleno de recuerdos que cuando menos se imagina afloran. Porque el tiempo, el implacable, el que pasó, nos dejó.
Demain, Joséphine Demeau poursuit le déballage de sa bibliothèque avec un extrait du roman Eugène Onéguin d'Alexandre Pouchkine. Mais pour l'instant, nous avons pour vous des images, une image, dont celle-ci qui se dit comme ça, qui se dit Polaroid. La femme ouvre le livre qui est en plomb, semble-t-il. Ou bien ses mains en écorce fragile de bouleau desséché, peu importe. Elle souffle, peu importe. Elle soulève les pages. Au fur et à mesure de ses pages et de la sueur que le mouvement fait naître sur ses tempes, elle différencie les airs qui se pressent sous la porte. Elle tresse des courants d'air comme elle le faisait des filets de foin, enfant, jusqu'à obtenir une température modérée, une température du milieu, un souhait. L'air tressé et enroulé autour de sa taille où tout se protège comme un petit de loup, elle continue de tourner les pages du livre devenu herbier, mais avec plus d'entrain, avec plus de puissance. Au centre, trône dans le pli, dans le petit espace resserré, pareil à celui qui survit entre le bras et le corps, pareil à cette aisselle fragile, elle découvre des feuilles de vigne, très rouges, rousses et très secrètes, qui peut-être dorment ici depuis 1 million d'années. Elle sait très bien que non. Elle connaît leur âge. C'est elle qui un jour les ramassait exactement au bout du Nil, alors que son amour comme le fleuve était en crue.
Just wanted
Pour ce Polaroid, la Miss Chanel vous faisait entendre le titre « Give up the Half Moon Run ». J'ai annoncé hier « Avignon à vie », un texte de Pascal Rambert que Denis Podalydès porte sur scène le 22 et 23 novembre. C'est bien au théâtre de Gennevilliers que se joue la pièce ce vendredi et ce samedi. Plus d'informations donc sur le site du théâtre de Gennevilliers, le T2G. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et la troisième étape de cette semaine imaginée autour du verbe terminer. Lundi, pour le dire vite, nous envisagions ce verbe à l'échelle très large et très grande de l'humanité ou de la Terre avec Bruno Latour. Hier, nous réfléchissions à la façon dont, à l'échelle individuelle comme à l'échelle sociale, il est possible de bien terminer le travail avec Christian Hellon. Aujourd'hui, l'échelle est difficilement définissable puisque l'on pose la question de terminer au poème ou à l'écriture de manière générale. Est-ce que la fin d'un poème est une façon de le terminer? Qu'est-ce qui peut se terminer dans un poème? Est-ce que l'achever, l'idée de l'achever ou l'ombre de l'achever, son obscurité, n'est pas contenue dans toute œuvre? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on entend faire en la terminant? Le mot fin est présent dans le titre d'au moins deux de vos ouvrages, Michel Deguy, le recueil « À ce qui n'en finit pas traîne » paru en 1995, et le livre « La fin dans le monde » paru en 2009. Vous êtes philosophe, écrivain, traducteur, essayiste. Bonjour, bienvenue, merci d'être là.
Bonjour.
Pendant le premier quart d'heure, vous n'aviez rien d'autre à faire que d'écouter. Je vous ai vu prendre des notes sur cette feuille de papier devant vous. Est-ce que vous travaillez toujours avec des petits carnets?
Toujours, oui, oui, ça commence. Ça commence par les petits carnets, bien entendu. Le manuscrit, et quelle que soit l'heure, et quand ça passe, quand ça va et ça vient, et dans un esprit à la fois de ne pas terminer et en même temps que ça s'achève là. C'est-à-dire, il faut que chaque séquence, chaque amorce ait en elle-même une certaine saturation, une certaine finition. Au fond, dès qu'on fait quelque chose, et comme tout faire, ça vous technique, savoir-faire, il y a un problème, enfin un problème, c'est l'horizon, c'est la finition, comme vous l'avez dit il y a un instant, l'achèvement, comment ça commence, comment en finir. Et dans le titre que vous avez évoqué, qui était un chant de deuil, « À ce qui n'en finit pas », au fond, j'ai voulu qu'on entende, c'est une expression, donc une expression lexicalisée en français, qui est très, très compliquée, si l'on veut, qui est très difficile à traduire. C'est à la fois, la phrase peut se dire avec lassitude, « ça n'en finit pas », et aussi avec espoir que ça n'en finisse pas. C'est toujours ces deux, on va dire, ces deux principes, principe espérance, comme dit l'autre, et principe d'achèvement. Donc, tout ça, c'est effectivement une affaire. Disons, toute œuvre, on va se contenter du domaine de l'art, toute œuvre cherche sa fin, à faire une bonne fin. Et donc, pendant des siècles, on pourrait rester quelques instants là-dedans, pendant des siècles, la forme dans son établissement, dans sa convention, dans son enseignement, prévoyait la fin. Prévoir la fin, alors les formes fixes, par exemple, pour ce qui est de la poésie, au fond, avait ceci de rassurant qu'il fallait, il y avait un cadre, comme on dit, un cadre à remplir et aller jusqu'à la fin. Et donc, on savait quand, pourquoi et comment surtout finir. Alors, ça pouvait être mauvais ou bon, ça, c'est un peu une autre affaire, mais au moins, le sonnet prenant cette forme magnifique qui commence au XIIIe siècle et qui continue, 4-4-3-3, par exemple, dans la disposition française, il y avait une forme. Donc, on va dire que cette généralité, c'est que, d'une certaine manière, la finition et l'achèvement est plus facile quand elle est ménagée par des formes fixes à remplir, qui, d'une certaine manière, sont toujours là. On va avoir affaire tout à fait dans un instant avec l'informe et l'informel. Mais dans l'art plastique, la picturalité et bien d'autres choses, de toute façon, par exemple, il y a un rectangle. Le rectangle, quelle que soit la peinture, que ce soit de la Croix ou du Rothko, c'est comme disait Butor, je crois, dans un titre, le carré est son habitant, ou le rectangle est son habitant, il y a à remplir un carré. C'est toujours dans un cadre, et le cadre est souvent carré.
Bon. Alors quel est-il, celui de la poésie contemporaine ou la vôtre, celle de maintenant, où la toile n'est pas prédéfinie, où la forme n'est pas une exigence, quand vous dites que c'est toujours permanent, que ça continue de battre? Oui. Ça bat à quelle échelle? Dans quelle mesure?
C'est le problème. Alors, faire une fin, c'est une question difficile à plusieurs échelles. Par exemple, à l'échelle phrastique, si on garde encore la phrase, achever quelque chose de l'ordre de la séquence courte, mais achevable. Et quelles que soient les unités, je saute tout de suite à l'autre unité qui est celle du recueil pour le poème, qu'on appelle souvent les recueils du poème. Quand finit un recueil, savoir finir un recueil, qui, d'une certaine manière, est lui-même dans un rapport avec l'œuvre continuée de quelqu'un, vers la fin de son œuvre, autant à chaque fois de problèmes de la finition. Alors, même si l'époque, depuis longtemps, favorise, ou disons, est favorable à l'inachèvement, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que l'inachèvement en lui-même est une... Donc, forcément, on va dire, puisqu'on est dans l'art, une espèce de perfection. Hein. Tout ça est très difficile, mais le... Malgré, donc je disais, l'engouement pour l'inachèvement, l'ébauche et toutes les formes de répétition sérielle ou d'indéfinition, néanmoins, le s'arrêter, le savoir s'arrêter et le présenter une certaine unité est toujours le problème. Hein, que ce soit, même si la forme fixe a disparu, prenons, puisque vous parlez du poème contemporain, finalement, qu'est-ce qui fait poème? Qu'est-ce qui reste poème? Une chose... peut-être la seule et dernière chose qu'on va appeler l'alinéa. C'est-à-dire le poème passe à la ligne. Donc la question d'aujourd'hui, quand, comment et pourquoi passez-vous à la ligne? Quelle est cette interruption qui fait une fin de ligne et qui demande son enjambement, enfin son alinéa? Donc si vous voulez, d'une certaine manière, on peut dire que probablement tous les problèmes de la composition et de l'achèvement d'un poème se reposent, à nouveau terme, mais en quelque façon les mêmes, dans cette affaire de... aligner, à passer à la ligne et puis s'interrompre, tourner la page. Le blanc, comme disait Mallarmé, assume l'importance.
Dans le cas des poèmes en prose, par exemple, dans les poèmes en prose, peut-être que le blanc joue davantage ce rôle que l'alinéa qui n'existe plus sur la page à proprement parler.
Oui, alors évidemment, il y a la question de la différence entre le poème en prose, la prose, le poème en prose et le poème contemporain, je dirais d'un mot qui n'est pas tellement employé, mais qui est fréquent enfin, dans les traités ou dans les livres, c'est le mot prosimètre, c'est-à-dire l'association, l'apposition, l'emmêlement de ce qui est, de ce qui se présente comme un poème par l'alinéa et le blanc, et de ce qui se présente comme une dans la forme discursive ou narrative, enfin plus prosaïque. Ben alors, puisque j'ai employé ce mot, disons, par exemple, un des modèles les plus merveilleux du prosimètre, c'est tout simplement la Vita Nova de Dante, c'est-à-dire comme cette narration qui s'interrompt tout à coup, et le narrateur ou le poète dit « et c'est alors que j'écrivis le poème bon. ». Ça peut se raffiner dans d'autres unités, à l'unité dans le paragraphe. Ou même... Et donc il y a cet entretissement et cette gêne ou aide réciproque d'un faire poème interrompu, alinéa, et d'un enchaîner une séquence prosaïque qui fait ce qu'on appelle ou qui est toujours la matière de ce qu'on peut appeler un prosimètre. Quoi qu'il en soit, l'achèvement, la finition, le faire une fin est bien. Alors, pour venir à des choses un peu autobiographiques, à la dimension d'une page, qui est toujours le rectangle, si l'on veut, dans lequel peut tenir le poème ou un poème, et à la dimension du recueil, quand ça s'arrête, pourquoi s'arrêter? Alors, ça n'est pas détachable, je crois, d'un projet qui est à grande échelle, qui est un projet de faire une œuvre, de continuer une œuvre, hein, d'enchaîner des recueils. Et puis pour chaque recueil, à moins que, et c'est aussi possible, quelqu'un jette une feuille et puis une autre derrière et il ne sait pas comment ça va continuer, et qu'on peut ramasser tout ça, c'est peut-être d'autres qui ramassent tout ça, mais il n'y a pas, à la dimension du livre, qui souhaite sa publication, de possibilités de composition qui ne se pose la question de « ça s'arrête maintenant ». Alors ici, il faudrait, vous comprenez, faire de la psychologie, la saturation, la fatigue ou le courage de continuer.
Comment le sentez-vous, vous, quand il est temps d'arrêter cette phrase ou quand il est temps d'arrêter ce poème, quand il est temps d'arrêter ce recueil ?
Ben écoutez, au fond, je vois quand même... alors là, c'est un peu singulier, propre à ce que je fais. Je vois bien la différence entre ceci quand je relis un texte, un poème, soit pour moi, soit dans une occasion de récitation. La différence entre telle, appelons ça pour le moment ligne ou vers, à laquelle ou auquel je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit... Et ce que, quand je le relis, je me dis que je pourrais modifier, ce qui est intéressant. Et je crois qu'il est vrai pour un auteur de dire, sinon d'avouer, que beaucoup de choses, beaucoup donc de lignes, beaucoup de phrases, sont modifiables. À la relecture, tiens, j'aurais pu dire ça autrement, tiens, j'aurais pu faire ça autrement. Et puis, des blocs ou des séquences qui sont... non modifiable. Donc, si l'on veut, parfaite. Il y a donc bien un sentiment d'une certaine perfection, d'une certaine finition qui peut intervenir et qui fait à chaque fois. Alors, quels sont les principes de saturation, de suffisance sémantique, rythmique, et puis isotopique, comme disent les linguistes, c'est-à-dire de ce dont il s'agit, une histoire qui s'achève là, et qui font que... La saturation, pas dans le sens, disons, péjoratif, la suffisance, l'insuffisance, la plénitude de la signifiance et de la signification. Dire, bon, pour le regard critique de celui qui est en train de composer, c'est atteint ou non. Ça fait une fin. Et voilà un des principes de, tout au moins à la relecture, de discrimination. Comment achever ? Mais c'est un souci énorme. Mais attention, pour le peintre, pour le musicien n'écrit pas délibérément une symphonie inachevée. Il se trouve que... D'ailleurs, ça m'amène peut-être à faire cette remarque qu'il y a deux principes d'achèvement ou de fin. C'est-à-dire, pour parler un peu trop en général, de l'extérieur... par hasard ou par accident, par hasard, par quels que soient ces accidents, on est interrompu. Par exemple, je pense à un exemple fameux dans l'histoire de la poésie, c'est le vieux marinier, le Coleridge, qui est visité par un rêve de poèmes, pour ainsi dire, tout écrit qui se livre à lui, et il écrit sous la dictée ou dans le souvenir de son inspiration le poème, quand soudain il est interrompu. Il est interrompu par un facteur qui vient porter. Et il est furieux d'être interrompu parce qu'il avait son poème qui suivait dans la tête et il s'y essaye de s'y remettre après le départ du facteur. Impossible. C'est fini. C'est ça que j'appelle un accident. N'oublions pas que tout est accident. Après tout, ça fait passer dans la tête le vieux titre fameux du livre « Hasard et nécessité ». En parlant du double principe, je suis un peu aux prises avec cette affaire-là. Hasard, ça s'arrête parce que ça vient de l'extérieur, et puis ça s'arrête parce que ça vient de l'intérieur. Alors, achèvement, le mot en français, lui aussi, est complètement ambigu, c'est-à-dire dans la synonymie de la perfection et dans la synonymie de l'interruption achevée ou inachevée, c'est achevée ou inachevée, sur le ton, on entend ça, c'est ou par perfection ou par hasard, etc. Donc, je crois qu'il faut quand même ne pas oublier ça. Alors, pour ce qui me concerne, le plus difficile, très souvent, c'est la composition de l'ensemble qui va s'appeler livre. Pourquoi s'arrêter là ? Hein ? Je prends un recueil que j'avais fait il y a longtemps, que je tiens beaucoup, qui s'appelle « Oui dire », avec ses séquences, et le sentiment, à un certain moment, que une certaine époque, une certaine phase de travail, ce qui veut dire aussi, si on veut à tout prix prendre ce mot d'inspiration, en tous les cas de consécution, dans un certain enthousiasme, si on veut,
se termine,
l'affaire est terminée. À ce moment-là, il faut la terminer. Ça doit être la même chose pour un musicien qui compose, pour un peintre qui compose, surtout quand l'inachèvement, l'insuffisance est un principe de travail.
Les qui est le vôtre, par exemple ?
Oui, tout à coup, j'ai jeté quelques toiles, je pourrais aller plus loin, pourquoi je m'arrête là ? Alors, là, comme l'amateur d'aujourd'hui se contente des signes d'un travail qui ne sont pas forcément achevés, et même aime assez l'interruption visible ou l'inachèvement, l'incomplétude, donc ça doit redoubler la difficulté pour un artiste, après tout, peut laisser une ébauche. Quand est-ce qu'une ébauche s'achève ? Je fais ébauche, je peux m'en contenter ou pas ? C'est toutes ces questions, et très nombreuses, qui font la matière de notre inquiétude.
En fait, je n'écris pas de poème. S'il faut entendre par ce mot, un ouvrage bien délimité, autonome et séparable d'autres que j'aurais terminé avant ou pourrais imaginer par la suite. Cette remarque pourra surprendre ceux qui ont lu ou aperçu dans mes livres des poèmes, justement, brefs, isolés, renforcés même dans leur particularité, dirait-on, par la présence d'un titre. Et pourtant, je puis en témoigner, ce que j'écris, ce sont des ensembles de textes, dont chacun est de la nature du fragment, car il n'existe qu'à partir de tous les autres et n'a de raison d'être et même de sens que par leur présence proche. En fait, voici ce qui se produit, et cela va peut-être faire comprendre que les oppositions essentielles dans le travail poétique ne sont pas entre telle ou telle œuvre qu'on aurait achevé l'une après l'autre, mais entre des aspects du processus d'écriture. Aspects qui portent chacun sur la totalité de ce que l'on a écrit ou écrira, et qui pourtant s'opposent en nous, se succèdent selon une certaine loi qui reflète sans doute un des besoins de l'esprit. Au début, car il y a un début, c'est le silence.
Michel Deguy, c'est la voix d'Yves Bonnefoy qu'on entend ici.
Oui, on la reconnaît bien.
Dans une archive de 1973, où il parle finalement de notre capacité, en tant que lecteur ou en tant que théoricien de la littérature, d'envisager une fin quand on peut enfin comprendre une totalité d'une œuvre. Et il parle de cette totalité, mais finalement, cette totalité ne peut se concevoir ou ne peut s'imaginer qu'une fois l'œuvre terminée. Qu'une fois l'œuvre achevée, mais l'œuvre totale.
Oui.
Est-ce que la véritable fin n'est pas celle-ci ? Est-ce que la véritable fin n'est pas celle face à laquelle nous sommes quand l'auteur cesse d'écrire ou quand l'auteur meurt, donc cesse d'écrire ?
Ben, la mort, c'est l'accident que j'évoquais, mais du coup, on n'en parle pas. Ou bien c'est... Je pense tout à coup à cette fusée, cette dernière page magnifique de Baudelaire qui commence par... Le monde va finir. Le monde va finir. C'est-à-dire l'imagination d'une apocalypse, appelons ça comme ça, qui, bien entendu, n'est pas la fin du monde réel. Le monde va finir par on ne sait quelle expression, mais qui est toujours le monde va finir pour moi. Là, le monde va finir. Imaginez comment le monde va finir, c'est bien le travail de l'artiste. Je pense tout à coup à Michel-Ange. Michel-Ange, évidemment, aidé, soutenu par la grande, appelons ça thématique biblique de la croyance, mais comment le monde va finir, c'est bien la tâche de représentation d'un artiste. Il peut l'imaginer en symphonie, il peut l'imaginer en déluge, il peut l'imaginer... Enfin, comment le monde va-t-il finir ? C'est bien la question qui guide. On pourrait prendre peut-être beaucoup de grandes œuvres, à commencer par celle de Dante, évidemment. Ça finit par le paradis ou ça finit par l'enfer ? Comment le monde va-t-il finir ? Et Baudelaire, tout à coup, le monde va finir. Alors, c'était pour ajouter à tout ce que vient de dire de sa voix impérieuse notre cher Yves Bonnefoy, je ne sais pas si aucun artiste a une vue claire de ce que vous venez d'appeler la totalité. Non.
Elle n'arrive qu'après cette vue et elle n'arrive pas par lui. Elle arrive par ceux qui sont en mesure de considérer la totalité de l'œuvre terminée une fois l'artiste ou bien retiré ou mort.
Oui, mais Donc, tout n'est jamais que partiel. La question, c'est pars pro toto, ou la question métonymique, si on veut l'appeler comme ça, c'est la question, est-ce que cette partie est une partie intégrante? Au fond, partie intégrante, c'est bien, parce qu'il y a des parties qui ne sont pas intégrantes, puis des parties qui sont intégrantes. Une partie intégrante, c'est une partie qui vise, qui semble capable de faire signe vers un tout, ce dont elle est la partie. Dans une maison, on voit très bien, dans un appartement, un séjour, des parties dont on pourrait se passer, puis des parties qui sont vraiment intégrantes, intégrantes de la totalité. Alors, on n'a jamais de rapport à la totalité, soit un rêve de totalité, soit un projet de totalité, que par la configuration d'une partie, mais qui soit une partie intégrante du tout. C'est bien l'affaire, c'est bien la grande difficulté. Au fond, puisque aucun poème n'est jamais à la mesure de la poésie, ou disons, la poésie, avec son P peut-être majuscule, enfin la poésie, dont on ne sait pas très bien, mais qu'on invoque quand même la poésie, n'est contenue dans aucun poème, heureusement. Aucun poème n'est capable, en capacité de la poésie. Parce que si la poésie passait intégralement dans un poème, eh bien, elle serait finie. C'est dans la mesure où le tout qui s'y est appelé poésie se dérobe, qu'il donne sa contenance au poème. Un poème est décontenancé par la poésie, qui lui donne sa contenance en cherchant à passer en poème. Et par conséquent, il faut recommencer, là, tant le suivant, qui sera capable ou non d'être cette partie intégrante. Je pense que c'est tout ça qui est indiqué ou agité par la réflexion si féconde d'Yves Bonnefoy.
Est-ce que vous diriez que, par exemple, votre œuvre, non seulement elle est composée par chacun des poèmes, chacune des phrases, chacun des recueils, chacun des essais, éventuellement chacune des traduction, non seulement elle est composée, mais en plus, chacun de ces petits bouts-là font appel à l'idée d'une totalité, font appel à l'idée d'une œuvre, convoquent cette espèce de plus grand tout.
Oui, peut-être une séquence réussie cherche à dire quelque chose de la totalité dont elle ne sait rien, sinon qu'elle aimerait en être une partie, c'est quelque chose de sorte que c'est toujours décevant. C'est toujours décevant, et c'est pour ça que ça recommence dans l'incapacité à avoir formé une partie intégrante. C'est la déception qui relance. Et d'ailleurs, finalement, une œuvre d'un poète, j'ai parlé de Baudelaire, mais on pourrait parler de Dubellay ou de cent autres poèmes, ça consiste toujours à dire, il le dit par exemple dans sa correspondance, il le dit ailleurs, il le dit dans ses préfaces, dans ses projets avortés, eh bien c'est que il n'a pas encore tout à fait, il n'a pas encore été à la mesure de son ambition, je ne sais pas comment dire ça, banalement, il est toujours en train d'échouer, ça n'est pas suffisant, comment recommencer, c'est le sentiment de... Oui, c'est ça qui est très important, finalement, ce sentiment de cet échec, c'est si on peut recommencer à l'assaut du désiré, ou je ne sais pas comment dire ça maintenant, là. Autrement dit, c'est une occasion pour dire qu'une œuvre, poétique ou romanesque, je ne détache pas la poésie, moi, de la littérature, hein. Attendez, il y a une différence énorme entre la littérature et ce qui n'est pas la littérature, et puis à l'intérieur de la littérature, une différence entre prose, poème, etc. Tout ce qu'on veut, mais là, on est en train de parler de l'œuvre littéraire. C'était là, finalement, d'une œuvre de pensée humaine, une œuvre de la pensée humaine qui pense en langue vernaculaire et qui fait confiance à la langue maternelle pour dire ce qui est à dire, à la différence d'une œuvre scientifique ou autre. Donc, il y a je ne sais plus très bien comment j'ai commencé cette phrase-ci, mais...
C'est en disant que c'est parce que la partie appelle le tout ou appelle ce qu'on peut appeler le désiré avec un grand T, et qu'à chaque fois qu'elle essaye d'appeler ça en se faisant et en étant et en essayant de se glisser dedans, elle échoue, mais elle existe, donc... L'auteur recommence. Ouais.
Alors, j'ai nommé... Tout à l'heure, je crois que j'ai cité le nom de Dubellay au passage. On voit très bien comment l'œuvre de Dubellay est l'œuvre d'un poète qui croit en permanence qu'il n'est pas capable de... Qu'il y a les fameux grands genres, nous sommes au XVIe siècle, les formes sont les formes fixes. Les grands genres, c'est par exemple l'épopée ou la tragédie. Et qui donc, en rabat sur son ambition en pensant qu'il écrit des broutilles, qu'il va parvenir à faire un sonnet, mais enfin que c'est peu de choses. Et c'est ainsi qu'il invente son originalité. Donc, c'est au fond en manquant à ce qu'il espérait, c'est-à-dire finalement être aussi fort et aussi beau que Ronsard, c'est ça que ça veut dire, qu'il invente précisément la lyrique française qui va devenir cette voix qui n'est pas celle de l'épopée et de la tragédie et qui va finalement augmenter dans l'histoire jusqu'à être presque le tout de la poésie, c'est-à-dire la poésie lyrique, puisque les grands gens, les fameux grands gens, le poème tragique et le poème épique, qui composaient les deux tiers, Nietzsche, le principal de la poésie, ont cessé à la fin du XVIIIe. Bien entendu, il y a l'épopée hugolienne, mais qui justement n'est pas d'un seul tenant, etc., etc. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le sentiment qui doit lui-même ne pas être simplement une lassitude, mais le sentiment et la recherche des raisons de l'échec, de relance dans un projet qui peut faire œuvre, un faire œuvre qui n'était pas prévu. C'est peut-être un peu trop simple, ça, d'un faire œuvre qui n'était pas comme le projet d'un bâtiment que peut faire un architecte quand il a toutes les données, qui sait qu'il doit construire une chose achevable et habitable. Je remplis d'un beau nom, N-O-N, ce grand espace vide, etc., etc.
Ce rapport d'intimité nécessaire, le lecteur du poème, pour peu que celui-ci fasse allusion à des situations d'existence élémentaires, universelles, eh bien, il peut le recréer pour son propre compte, en ajoutant aux mots et aux phrases de l'écrivain son expérience à lui, ses désirs et ses souvenirs. Et le poème, s'il est beau, comme l'on dit, ou plutôt s'il a tenu une fois dans l'exigence d'une conscience, ce poème donc pourra même valoir longtemps, indéfiniment, pour le lecteur, sauf que celui-ci ne le lira jamais tout à fait de la même façon au cours des années. Il change lui aussi et fait devenir ce qu'il lit, ce qu'il peut même savoir par cœur. Mais l'auteur du poème, lui, n'a pas cette sorte de rapport avec le texte. Il a été trop à l'intérieur et d'une façon trop concrète, anecdotique. Il est surtout sensible maintenant à ce que ces mots anciens n'ont pas compris ou prévu. Et si son intelligence du monde change, rien qu'un peu, c'est tout ce réseau de relations symboliques qu'il éprouve le besoin de modifier. D'où suit que cette langue d'hier, qui peut toujours lui paraître poétique, ce n'est pas là la question, qui peut toujours l'appeler à la présence, il veut pourtant la changer pour qu'elle témoigne de ce qu'il est devenu. Et voilà donc le silence que je disais tout à l'heure du livre qu'on écrivait hier et dont l'écrivant en attendait tout, puisqu'il était le lieu de l'avènement de l'unité, de l'espoir. Eh bien, à peine terminé, on n'en peut rien retenir. Il n'a plus valeur que d'incitation à recommencer.
C'est combien de temps on a? Ça fait 40 ans. Et finalement, vos propos se rejoignent avec Yves Bonnefoy, une nouvelle fois, cette archive de 1973, où il évoque deux positions. Celle du lecteur pour qui le poème peut valoir longtemps, voire indéfiniment, car le lecteur réécrit par son désir, par son changement, ce qu'il lit. En revanche, il dit, l'auteur, lui, n'est pas tout à fait dans la même position, car il a utilisé des mots, et ces mots-là sont, entre guillemets, d'une certaine manière, terminés. Il parle d'une langue d'hier. Est-ce que c'est pas ça qui peut se terminer, Michel Deguy, la correspondance entre ce qu'on a pu vouloir dire ou faire exister à un moment donné de sa vie d'écrivain et le mot?
Alors, ce que je viens d'entendre dans la bouche d'Yves Bonnefoy m'inspire deux remarques. Et ce que vous venez de dire aussi. Au fond, notre époque, ce temps-ci, maintenant, 2013, je veux dire, pas 1973, parce que ça s'est exagéré au cours des années, en appelle trop au lecteur pour achever. C'est un des clichés de la critique et du théorie, peut-être un peu comme ça, rapide, que c'est au lecteur, voire au spectateur, voire d'achever l'œuvre. Au fond, d'une certaine manière, je n'en crois rien du tout. Bien entendu, écrire et surtout publier, c'est-à-dire que le désir d'écrire soit porté ou continué par un désir de publier, de montrer, bien entendu, on appelle au lecteur. Et comme disait Valérie il y a déjà fort longtemps, mes vers ont le sens qu'on leur prête. Mais il y a aussi le sens qu'il leur prêtait. Et bien entendu, nous ne savons pas le destin critique, herméneutique d'une œuvre. Mais si vous voulez, si moi, une des différences importantes avec peut-être même ces années qui étaient les années 70, c'est que c'est un peu comme si un artiste ou un écrivain se contentait de certaines ébauches en s'en remettant au public, à la réception, comme on dit, à la réception, pour achever, pour porter à finition l'œuvre. Je crois que ça ne marche que si lui-même a été capable d'une finition qu'il a voulu. Et encore une fois, bien entendu, il s'agit de s'adresser à quelqu'un, de ce, comme disait Paul Celan, à serrer une main, témoigner, s'adresser à quelqu'un. Mais, en tous les cas, pour moi, le sens, je ne dis pas la signification, parce qu'il y a une différence, signification linguistique stricte, et le sens, par exemple, le sens d'une œuvre musicale. Mais enfin,
est le porté... sens est clos, pour vous, quand vous portez
pas
la
clos.
Publication.
Non, pas clos, c'est un sens qui s'adresse, qui attend, d'une certaine manière, dans un meilleur des mondes, un dialogue, mais qui n'est pas confié au lecteur, qui est donné. Au fond, un peu, que tout simplement, effectivement, si, comme quand on fait un beau cadeau à quelqu'un, on s'attend qu'il ouvre le cadeau, on ne s'attend pas qu'il le refasse, même si après ça, il le met dans son salon, il fait ce qu'il veut. Mais ça va, voilà, ça c'est un point important, parce que c'est un des clichés, ou disons des stéréotypes, qui je trouve un peu irritant. Hein, on verra bien ça, c'est vous qui finissez. C'est parce que ça va dans le sens de l'opinion. Vous avez votre opinion, moi la mienne, donc vous faites ce que vous voulez. Non, vous êtes au fond un grand... Je crois qu'une grande œuvre, on ne parle plus des miennes ou des miens, une grande œuvre ne dit pas au lecteur « faites ce que vous voulez ». Je ne pense pas que Dante aurait dit ça pour la Divine Comédie. Non, Bon, alors ça, c'est la première remarque, mais c'est, je crois, important. L'autre remarque, parce que c'est aussi caractéristique pour nous, c'est-à-dire il s'agit toujours d'aujourd'hui, 2013, c'est-à-dire 21e siècle, largement entamé, c'est une généralité sur la fin. Au fond, la pensée de la fin a changé. Elle a échangé parce que c'est la fin partout. Alors, si vous voulez, depuis 20, 30 ans, et surtout, enfin, dans les parages philosophiques, la fin, hein, la fin de la philosophie, la fin de la métaphysique, la fin de l'histoire, la fin de l'histoire. Quelle est donc la fin, et je pourrais même dire, au fond, la hantise d'une fin réelle, c'est-à-dire d'une catastrophe effective, se fait beaucoup plus pressante, car c'est un lieu commun du monde et partout, que celui-ci. Si ça continue de cette façon-là, on va peut-être faire une fin, au sens où l'humanité fera peut-être une fin. Et ça, c'est quelque chose qui ne devient prégnant et fort qu'à partir, disons, du milieu du XXe siècle, c'est-à-dire finalement de l'énergie atomique et de la capacité d'un ravage terrestre, d'une dévastation terrestre qui est réelle. Ça, c'est assez important. C'est pour ça que j'avais titré un bouquin récent, vous l'avez évoqué, « La fin dans le monde ». D'abord pour faire entendre l'homonymie avec F.I.M., la fin dans le monde, la fin erre dans le monde, y compris la fin du monde erre dans le monde, une fin réelle. Ajoutons qu'elle est d'autant plus angoissante que d'une certaine manière, l'autre monde a disparu. C'est-à-dire, toutes les pensées de la fin pendant les siècles étaient quand même liées, pour la plupart des hommes, un rapport à une différence entre un ici-bas et un au-delà, quel que soit cet au-delà, entre une vie ici et une vie ailleurs, bref, un autre monde. Mais l'autre monde, on peut dire d'une manière brutale, quelles que soient les croyances des uns, il n'y a pas d'autre monde, ou plutôt, ce qu'on appelle autre monde maintenant, c'est l'autre monde de l'altermondialisation, c'est-à-dire la différence pour ici-bas entre une mondialisation et une altermondialisation. Je ne pense pas qu'une œuvre, pour revenir à l'œuvre, je ne pense pas qu'une œuvre soit portée dans le désir d'œuvre par ce qui fut longtemps essentiel, à savoir un souci de gloire au-delà de sa vie, c'est-à-dire dans l'au-delà, au moins de l'au-delà de sa propre vie, d'une durée éternelle ou sans fin pour la mémoire de ce qu'on écrit, au fond. C'est beaucoup plus dans l'urgence, beaucoup plus pour avoir du sens maintenant, une certaine efficience, peut-être, sur aujourd'hui, le strict aujourd'hui, la réduction de ce monde, le monde qui va finir, à cet aujourd'hui, si vous voulez, pas d'autre monde. Ou comme dirait Nietzsche, plus d'arrière-monde. Ce n'est pas pour les arrière-mondes. Ça, c'est très important. Donc, changement de la pensée de la fin et changement peut-être de la pensée, de la réception que j'ai évoquée tout à l'heure.
En même temps, vous écrivez vous-même qu'il y a dans la mort, donc cette fin d'autant plus radicale qu'il n'y a pas d'arrière-monde ni d'autre monde sollicité ou rêvé selon vous, il n'y a dans la fin que de l'inachèvement. La mort inachève, porte en elle l'inachevé. C'est-à-dire que même cette fin-là, qu'on peut difficilement récuser en tant qu'elle, en tout cas, supprime le corps de sa capacité à vivre, à faire circuler du sang, etc., eh bien, cette fin-là, même, vous la considérez comme étant un inachèvement. Ou portant de l'inachèvement, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose.
Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris la forme de la question que vous me posez. Mais enfin, il s'agit...
La question, si on la résume de manière un peu triviale, c'est-à-dire la mort elle-même n'est pas une fin.
La mort n'est pas... La mort pourrait être une fin. La mort n'est pas une fin, ça veut dire qu'il y a des nouveaux venus, comme disait Hannah Arendt. C'est-à-dire, au fond, il y a le rapport foncier, enfin fondamental, qui change un peu ce rapport à l'au-delà, c'est que il y a des nouveaux venus. C'est ça qui est extraordinaire. Tout semble effectivement en voie d'achèvement, éventuellement en voie de dévastation, pour prendre un mot de la traduction de la guerre. Et puis il y a cette extraordinaire chose que Arendt appelle les nouveaux venus. Les nouveaux venus, c'est ceux qui arrivent, ceux qui surviennent, les survivants. Alors on va dire qu'au moins le transmettre, le passer quelque chose à du nouveau venu, c'est ça qui est extrêmement important. C'est peut-être ça que même Baudelaire, quand il dit à sa mère qu'au fond il a gardé l'espérance, c'est très bizarre parce que Baudelaire, ce n'était pas l'espérance théologale qui le portait. Garder l'espérance, ça veut dire de transmettre, de passer quelque chose, mais non pas du tout. Aere perennius, comme disait Horace, c'est-à-dire plus durable que les reins pour toujours la gloire immortelle. Non, là, dans l'immédiateté du rapport avec des nouveaux venus auxquels on voudrait dire quelque chose.
Et je l'accueille en souriant. On entend depuis lundi et jusqu'à vendredi des extraits du livre de la pauvreté et de la mort de Rainer Maria Rilke dans une traduction d'Arthur Adamoff. Ils nous sont lus par Éric Genovese de la Comédie Française. On l'écoute.
Rainer Maria Rilke. Le livre de la pauvreté et de la mort. Hélas, après, j'ai vu les palais de ce temps. Ils paradaient comme des paons au fier plumage, mais à la voix criarde, horrible. Beaucoup d'hommes sont riches, et leur orgueil est grand. Mais les riches ne sont pas riches. Ils ne sont pas comme les pasteurs de ces peuples nomades qui passaient par les plaines vertes et claires, suivis de la masse confuse de leurs troupeaux comme les nuages passent dans le ciel du matin, et quand ils dressaient la tente pour le campement du soir, alors se levait l'âme errante des plaines, et les chameaux se profilaient au loin comme des chaînes de montagne. Ils ne sont pas comme ces cheiks des tribus du désert qui reposaient la nuit sur des tapis fanés, mais enchâssaient des rubis étincelants dans les peignes d'argent de leurs juments favorites. Ils ne sont pas comme ces princes aux mœurs altières pour qui l'or était fade et sans attrait et qui passaient chaque jour de leur vie dans l'ivresse de l'ambre, de l'amande et du santal. Ils ne sont pas comme ces armateurs des vieux ports de commerce qui s'entouraient d'œuvres d'un art superbe et parvenaient au prix de l'entêtement de toute une vie à faire de leur port une œuvre plus belle encore. Ils ne sont pas semblables à ces anciens magnats qui, enveloppés dans le manteau d'or de leur ville, comme la feuille dans le bourgeon, sommeillaient au battement de leurs tempes blanches. C'étaient là des riches pour qui la vie durait, sans limite, humaine et lourde de sens. Mais le temps des riches est passé, et nul n'appellera plus jamais leur retour. Fait seulement que les pauvres restent pauvres. Pauvres, ils ne le sont pas. Ils ne sont que privés de biens essentiels et livrés au hasard, sans force et sans volonté. Ils sont marqués du sceau d'une angoisse sans nom et dépouillés de tout, même du sens de la pauvreté. La poussière des villes se lève pour souiller leurs visages et toutes les immondices s'attachent à eux. Ils vont échouer à la dérive comme des épaves, ils font peur comme des pestiférés, mais si le monde sentait le poids de la souffrance, il porterait les pauvres comme une couronne de roses à son front. Car les pauvres ont la pureté de la pierre et l'innocence de la bête aveugle qui vient de naître. et dans leur simplicité pleine de toi, ils ne demandent qu'à rester pauvres, comme ils le sont en vérité, car la pauvreté est comme une grande lumière au fond du cœur.
Michel Deguy, peut-être c'est à vous que revient le mot de la fin, puisqu'il s'agit de terminer. Je vous laisserai bien la liberté de terminer comme vous l'entendez. Qu'est-ce que ce serait le mot de la fin alors ?
Ben, je ne sais pas du tout. Alors là, vous me prenez deux coups par la fin, faire une fin. J'aurais dû prévoir ça, d'avoir un beau mot de la fin, une clausule, comme on disait justement autrefois pour une fable. Eh bien, vers une nouvelle fable sera mon mot de la fin.
Ça me paraît pas mal. Merci beaucoup. La fin dans le monde, F.I.N. C'est publié aux éditions Hermann dans la collection Le Bel Aujourd'hui. Quant à l'ensemble de votre œuvre, comme on dit, poétique, elle, c'est chez Gallimard. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Qui voudrait réécouter cette émission et celle qui les précède devrait pouvoir le faire sur franceculture.fr, rubrique Pas la peine de crier, et s'abonner au podcast Polaroid, Poème, Bibliothèque, afin que cette heure de radio et les petits bouts qui la composent vous soient livrés chez vous. On peut aussi se donner des nouvelles et des programmes en se suivant sur Twitter. Nous, c'est @paslapeine2. Vos courriers papiers électroniques sont toujours les bienvenus et ils nous réjouissent. Aujourd'hui aux manettes, c'était Bruno Gagnère-Fontani. Merci à Céline Geoffroy des Fictions. Ma reconnaissance à la petite équipe de Pas la peine de crier, Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bec de Lièvre. L'émission a été réalisée par Michanel. Si vous êtes fidèle au poste, à demain dans un instant le 5 à 7, Hervé Gardette.